33 ans, mon invité a parcouru le sud profond des États-Unis, ce qu'on appelle la ceinture de la Bible, et il en a tiré un livre absolument fascinant qui a été traduit en français sous le titre « Au pays de Dieu ». C'est moins une enquête qu'une immersion, un récit de voyage qui est fait de rencontres, de témoignages, de confessions, et qu'il faut lire, je crois, pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis. D'où vient vraiment ce projet de la Cour suprême qui pourrait renverser cette jurisprudence de 1973 qui protège le droit à l'avortement? Et comment expliquer le poids de la religion, le fondamentalisme chrétien, l'omniprésence et le renouveau, surtout, d'une vision et d'un discours puritain? Il montre bien, par exemple, qu'il y a une tradition américaine du sursaut chrétien, sorte de réaction viscérale à ce qui est perçu comme un relâchement moral, et qui revient comme un refrain depuis les origines des États-Unis avec des grands réveils qui voient émerger de nouvelles communautés religieuses, des groupes spirituels, des prédicateurs sur tous les terrains, y compris au plus haut niveau de l'État. Et c'est assez fascinant de voir comment cette culture néo-puritaine s'est considérablement étendue depuis 33 ans, sans jamais perdre de vue ses rêves et ses combats, parmi lesquels la question du droit à l'avortement qui n'est jamais vraiment passée et qui est toujours considérée comme une abomination sur laquelle on peut revenir. Voilà ce à quoi on est en train d'assister, et qui, mieux que mon invité, pour en parler.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a donc toujours interrogé le puritanisme aux États-Unis au gré de romans et même d'enquêtes. Il est sans doute l'écrivain américain le plus populaire en France et il explore les fractures invisibles de nos vies et de nos pays. Les hommes ont peur de la lumière. Son nouveau livre vient de paraître dans une traduction de Chloé Royer. C'est l'histoire ô combien d'actualité d'un quinquagénaire précaire de Los Angeles qui ouvre les yeux sur la violence d'une société plus divisée que jamais sur la question de l'avortement. Bonjour Douglas Kennedy.
Bonjour Augustin, c'est tout pour moi.
Merci, merci d'être là ce matin. Je me pose la question, et je vous la pose, quel puritanisme est en train de se réveiller dans votre pays aujourd'hui?
La vérité, des gens de l'Angleterre sont arrivés aux États-Unis, c'était en fait la Nouvelle Monde, au début du XVIIe siècle. Franchement, ce n'est pas en fait des gens en fait sympathiques, c'était vraiment des puritains. Et avec des lois féroces. J'ai dit une fois à la radio publique aux États-Unis, j'ai dit franchement, des puritains américains, c'était le Taliban du 19e siècle, en fait 17e siècle. Et ils ont construit dans le Massachusetts une vraie théocratie, hyper, hyper stricte. La vérité, ça c'est nos racines comme un pays. Et une des raisons pour lesquelles que des hommes de lumière comme Franklin Roosevelt, Jefferson Adams, qui ont écrit la Constitution américaine après notre révolution, ils ont insisté pour la séparation entre l'Église et l'État. Et parce qu'ils ont compris, dans l'âme américaine, il y avait un aspect de fondamentalisme et aussi de théocratie. Et maintenant, c'est absolument extraordinaire. Quand j'ai fait le voyage pour au pays de Dieu,
en fait,
il y a 33 ans, j'étais jeune, et franchement, c'était le début de télé-évangélisme, et franchement, une deuxième réveil chrétien aux États-Unis. Mais le réveil, c'était politiquement, en fait, passionnante, parce que c'était le parti républicain qui a commencé de comprendre avec Reagan et les deux Bush pour gagner la Maison Blanche, il faut faire une liaison avec des chrétiennes qui ont une force immense, surtout dans le Sud.
Alors Douglas Kennedy, comment la question de l'avortement en est-elle venue à constituer l'un des enjeux phares de ce que vous appelez volontiers une guerre culturelle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Non, ça c'est absolument extraordinaire. Et la chose la plus extraordinaire, c'est à cause de Trump qu'on a trois juges hyper conservateurs du Cour suprême. Trump qui a dragué des stars de porno. Trump qui a payé pour, j'imagine, 20 au minimum avortements pendant sa vie. Mais Trump qui est devenu le cheval de Troie pour des néo-chrétiennes et qui a dit « je suis contre l'avortement ». Il a compris aussi, pour maintenir le pouvoir, il faut avoir une vice-présidente, Mike Pence, qui est un homme hyper bizarre. Vous savez que Pence a dit à sa femme « maman ».
Oui, il l'appelle maman, ouais.
Ah, et pas maman. Ça, c'est très cool.
C'est un délire.
Ah, ouais. C'est très, très cool. mais voilà, en fait, Trump est devenu l'héros pour des néo-chrétiennes. Et le résultat maintenant, la vérité, une petite chose historique, 73, un Cour suprême républicaine, avec une majorité républicaine, a consacré une loi, Roe contre Wade, qui a dit, enfin, en fait, l'avortement est légal de manière fédérale dans tous les États. Le système américain, il y a 50 États et aussi un gouvernement fédéral. Mais fédéralement, c'était légal pour garantir, en fait, la santé des femmes et aussi le droit, en fait, de terminer, en fait, d'une grossesse.
Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si la Cour suprême décidait de supprimer ce droit à l'IVG garanti par la Constitution depuis 1973?
Oui, maintenant, si ça va arriver, et ça va arriver, j'en suis sûr, en juin ou début juillet, 26 États immédiats vont terminer l'avortement. Et ça sera, en fait, une crise, parce que pour beaucoup... et aussi, en fait, j'ai vu, en fait... ma fille, Amelia, est ici à Paris, en fait, cette semaine. Et elle m'a dit, en fait, il y a quelques jours, mon Dieu, papa, en Louisiane, ils ont dit, en fait, la contraception, va devenir illégale. Si on est stérilisé, ça c'est contre la loi. Ça c'est aussi une forme d'avortement. Le truc maintenant, et c'est passionnant. Je pense que, franchement, en fait, et Trump est le symbole de ça, et c'est partout dans mon roman aussi, la revanche des hommes blancs est partout, et la misogynie est derrière, en fait, franchement, des lois contre l'avortement. Et de plus en plus, en fait, j'ai vu ça avec, par exemple, mon père, qui était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a grandi dans un quartier très populaire, par quelqu'un très bien éduqué. Et aussi, de plus en plus, surtout pendant les années 70, après des émeutes, franchement contre Vietnam, des émeutes dans des ghettos africaines-américaines, l'augmentation du féminisme, de plus en plus, en fait. Mais, en fait... ça, ce n'est pas des règles ici.
Vous pensez à la possibilité, à l'éventualité, à la certitude d'une guerre civile aux États-Unis?
Ça, c'est le sujet de mon prochain roman. J'ai juste terminé quelque chose comme ça. Je pense que c'est très, très possible maintenant, parce que la vérité, on a deux Amériques aujourd'hui et on déteste l'autre. Et une autre chose, dans mon roman, dans Les Hommes Peur de la Lumière, c'est une histoire, franchement, d'un homme, en fait, la cinquantaine, Brandon, qui était vendeur, un peu comme Willie Loman de Arthur Miller. Il était licencié. Et quelle est la seule opportunité pour un homme, en fait, la cinquantaine aux États-Unis? Devenir chauffeur d'Uber. Et j'ai interviewé, en fait, un chauffeur d'Uber. Et dans le roman, j'explique, point, 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 comment le système marche.
Alors, on va y revenir, évidemment, mais dans cette fracture, en fait, dans cet espace extrêmement clivé que vous décrivez, qu'est l'Amérique aujourd'hui, Douglas Kennedy, est-ce que le roman rend possible, justement, l'expression de la nuance, la possibilité de la nuance?
La nuance, ça, c'est un très, très bon mot, parce que la nuance est absente partout dans le débat culturel aux États-Unis. Et ça, c'est aussi quelque chose dans mon roman, le fait que c'est impossible d'avoir un débat maintenant. C'est, oui, en fait, j'ai raison, vous avez tort.
Sauf peut-être dans le roman, justement.
Dans le roman, oui. Mais si on est romancier, j'espère qu'on comprend que, surtout dans des grandes questions morales, il n'a pas, en fait, une réponse ni noir ni blanc, en fait, en dehors des choses manichéennes.
Oui.
C'est nuancé, c'est gris. Ça, c'est mon sujet.
Oui, mais quel est-il le poids du roman aujourd'hui, Douglas Kennedy? Combien ça pèse un roman dans le débat public? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on le lit?
La vérité, maintenant, quand je regarde quelqu'un dans le métro, et je prends le métro tout le temps, comme tout le monde, avec un livre, je vais l'embrasser, parce que je suis si content. La vérité, maintenant, en fait, la romance moderne, c'est un couple dans un resto, en face de leur iPhone. Ça, c'est la vérité, maintenant. Tout le monde regarde des écrans. je suis quelqu'un peut-être très ringard, mais une des raisons pour lesquelles je vis à Paris, c'est pour des petits cinémas. En fait, fréquemment, je suis seul au milieu de l'après-midi dans une petite salle rue Champollion. La vérité, tout le monde est obsédé par des écrans maintenant. Et franchement, pour moi, mon point de vue au sujet du roman, j'aime le fait que j'ai des universitaires de l'École supérieure et Sciences Po qui lisent mes romans, mais aussi ma concierge. Et la vérité, j'essaie d'écrire des romans où on va tourner des pages, mais où il y a un vrai miroir des inquiétudes modernes. Ça, c'est mon sujet.
Celle qui résiste aux écrans dans cette émission, Douglas, vous la connaissez. D'ailleurs, elle vous lit plus souvent qu'à son tour. C'est la culture et son actualité boussole et versatile. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 9 mai? Bono, Super Bono, le leader du groupe U2 et son complice The Edge ont donné hier un concert surprise dans les couloirs du métro de Kiev, reconverti en abri depuis le début de la guerre. Invités par le président Volodymyr Zelensky, les deux musiciens ont joué plusieurs de leurs morceaux comme With or Without You, Vertigo ou Sunday, Bloody Sunday devant une petite foule d'habitants de la ville et plusieurs membres de l'armée ukrainienne. Vous vous battez pour nous tous qui aimons la liberté, a déclaré Bono entre deux morceaux. L'un des portraits mythiques de Marilyn, réalisé par le pape du pop art Andy Warhol, va être mis aux enchères aujourd'hui chez Christie's à New York, baptisé Shot Sage Blue Marilyn. Ce tableau d'un mètre sur un mètre date de 1964. On y voit le visage de l'actrice immortalisé en jaune, rose et rouge sur fond bleu. Déclinée ensuite à l'infini, la toile pourrait atteindre cet après-midi les 200 millions de dollars, ce qui en ferait l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère de tous les temps. Affaire à suivre.
C'était, je ne dis pas un désert, mais un vaste territoire en friche avec la plus grande ville de France, le ruban périphérique, entourant Paris.
Le metteur en scène, écrivain, poète et comédien Gabriel Garand est mort vendredi à Paris. Il avait 95 ans, survivant de la Shoah, grand seigneur du théâtre français. Il était le fondateur de la commune d'Aubervilliers, institution créée en 1965 qu'il dirigea pendant 20 ans. Par la suite, Gabriel Garand fonda aussi le Théâtre international de langue française et la compagnie du Parloir contemporain où il orchestra la rencontre de la littérature, de la scène, de la poésie. En plus de deux pièces et un roman, il laisse plus de 1000 poèmes à découvrir notamment aux éditions Archimbaud.
Je ne vais jamais voir un film, je n'écoute jamais une chose que j'ai écrite, jamais. Ma seule passion, c'est ce que je suis en train de faire dans l'instant.
Et enfin, Les Grands du Le Grand pour sa deuxième édition, le prix Michel Le Grand, créé l'année dernière par Macha Merrill pour récompenser le meilleur de la musique de film, a dévoilé hier ses trois lauréats 2022. Sous l'égide d'un jury présidé par Claude Lelouch, les prix du meilleur compositeur et du meilleur talent émergent sont allés respectivement à Amin Bouafa pour la musique du Sommet des Dieux et à Bachar Mal Khalife pour celle de Sous le ciel d'Alice. Par ailleurs, un prix d'honneur a été attribué au japonais Joe Hisaishi, compositeur historique de Miyazaki et du studio Ghibli. Et l'écrivain américain Douglas Kennedy, invité de Boomerang ce matin pour ce livre « Les hommes ont peur de la lumière » qui est présenté comme votre retour au roman noir. Qu'est-ce qui pour vous fait l'essence de ce genre littéraire, le roman noir, Douglas ?
Le roman noir est obsédé avec, métaphoriquement, la rue.
Oui.
Toujours la rue.
C'est son caractère urbain, en fait.
Oui, tout à fait. Mais aussi pour moi, franchement, des faiblesses humaine. Ça, c'est le roman noir. Le fait que dans une société, tout le monde est corrompu. Ça, c'est aussi le roman noir. En fait, j'adore, par exemple, pour moi, je suis d'accord avec Henri Gide, un des grands écrivains francophones du XXe siècle, chez Simenon. Sans aucun doute. Mais aussi pour moi, Raymond Chandler, aux États-Unis. Son style a complètement changé, en fait, le style américain, comme Hemingway.
Alors, c'est pas étonnant que vous ayez choisi Los Angeles, je
non,
suppose.
Non, tout à fait. Mais aussi, quelque chose d'intéressant dans ce roman. J'ai écrit quelque chose dans mon calepin au début de l'écriture. Jamais une scène sur une plage. À côté d'une piscine. Sur Los Angeles, franchement, c'est un miroir de la classe moyenne américaine. Et aussi le fait que pour 98% des habitants de Los Angeles, la vie est une lutte totale.
Oui, vous dites que c'est presque impossible de survivre, en fait, dans cette ville aujourd'hui. C'est ce qui apparaît.
Mais ça, c'est la vérité partout maintenant. Aux États-Unis, c'est une des choses extraordinaires depuis l'époque de Reagan, et c'était la classe moyenne qui a soutenu Reagan à l'époque. Mais petit à petit, franchement, en fait, j'ai lu une statistique récemment en 1965. En fait, la gouffre entre des riches et franchement la classe professionnelle, c'est peut-être en fait 10%. OK, maintenant c'est 1000%. Des plus tôt, en fait, je connais des gens, en fait, des camarades de classe. Quelqu'un m'a dit oh, moins de 10 millions de la fortune, c'est triste. Merde. Mais il y a des gens comme ça et ils ne payent jamais des impôts. Alors, aussi, et c'est absolument extraordinaire. Pour moi, j'ai grandi dans la classe moyenne américaine à New York. Il n'y a pas une classe moyenne maintenant à Manhattan. C'est impossible. C'est de plus en plus la même chose dans toutes les grandes villes, partout. Et donc, pour moi, dans ce roman, c'est un portrait de la classe moyenne. Mais aussi, le métaphore pour moi, et ça arrivait rapidement, un chauffeur d'Uber.
Justement, ce que vous racontez, en fait, Douglas Kennedy, c'est le quotidien d'un homme de 50 ans qui, après avoir été licencié, devient effectivement chauffeur Uber. Parce qu'il a des factures à payer, parce qu'il a une famille à faire vivre. Et il dit ceci, on ne travaille pas chez Uber, personne ne travaille chez Uber, on conduit pour Uber. Alors, même si on n'est pas leur employé à proprement parler, on est leur prisonnier, leur esclave, Douglas Kennedy.
Leur esclave, tout à fait. Et j'ai interviewé, en fait, ma fille a habité, en fait, 4 ans à Los Angeles. Elle m'a dit hier soir pendant le dîner, plus jamais à Los Angeles pour moi. Plus jamais, en fait, c'était trop bleu. J'ai adoré ça. Elle est très londonienne. Elle vit à New York maintenant. Mais j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles. Je commence d'utiliser les Uber parce que c'était plus facile, moins cher et aussi on peut boire le soir. Et aussi fumer l'herbe qui est légale maintenant en Californie. Et donc, mais pour moi, en fait, j'ai commencé aussi de parler avec tous les chauffeurs parce que ça, c'est moi. Je pose des questions tout le temps. Il y avait un mec, en fait, la cinquantaine, en fait, très costaud, avec un tatouage de US Marines sur le bras. J'ai dit, oh, mon père était dans les Marines. Quand? Deuxième guerre mondiale. Okinawa. Wow. Il a survécu Okinawa. Clairement, je suis ici. Et on commence de parler. Le mec était homosexuel. Il vit dans une caravane avec son mari. Et il était licencié, il y a 8 ans, vendeur. Et je lui ai dit, donnez-moi votre 06. Je vous ai posé des questions. OK, on a parlé 2 heures. Et il a complètement expliqué le système d'Uber. Et
que c'est un leurre, que c'est une illusion, que c'est un mensonge, cet affranchissement par le travail.
Tout à fait, tout à fait. Mais tout dans le roman, en fait, tout le monde est scotché quand ils ont lu ça. C'est vraiment comme ça, exactement comme ça.
Douglas Kennedy, sur quel mensonge avez-vous le sentiment que fonctionne la société américaine? Quels sont les mensonges profondément ancrés dans l'imaginaire collectif américain?
Maintenant, la vérité, c'est l'idée américaine, tout est possible. Pas du tout.
Qu'on peut repartir de zéro?
Pas du tout. En fait, le système est complètement darwiniste social. On vit maintenant aux États-Unis dans une économie du 19e siècle. Et franchement, en fait, mon rôle comme écrivain, c'était faire un miroir de cette société. Mais aussi, une autre chose, l'avortement. Pourquoi ça est devenu, en fait, un problème immense? Quand il y a 50 ans, comme j'ai dit, en fait, au début de cette émission, une Cour suprême républicaine a pensé, oui, c'est le moment juste de créer, enfin, une loi qui va garder l'avortement. Pourquoi? Comme j'ai dit, je pense que c'est la misogynie, et de plus en plus, et j'ai une hypothèse de ça, c'est un peu noir, mais c'est la revanche du Sud pour la guerre de la sécession. Et de plus en plus, la guerre culturelle aux États-Unis s'était articulée au début par Richard Nixon, et puis Reagan, et puis les deux Bush, et surtout Trump. Franchement, l'Amérique profonde, ça c'est des vrais Américains. Des gens de côte l'Est et Ouest, des élites, des intellectuels, en fait, des snobs, qui détestent, en fait, les vraies américaines. On est des vraies américaines. Et de plus en plus, ça c'est la vérité, j'ai dit quelque chose de quelqu'un récemment, un camarade de classe aux États-Unis, et c'était on a déjeuné à New York, même si le mec est très républicain, on est copains depuis 50 ans. Et le mec m'a dit, c'était après un massacre, dans, un autre massacre, dans un lycée. Et il m'a dit, mais ce n'est pas nous, Douglas. Et je lui ai dit, non, Andrew, c'est nous. C'est vraiment nous. Et il faut accepter ça. OK, ce n'est pas, en fait, 90% de nous, mais c'est nous, nos obsessions avec des armes. Le fait qu'on pense qu'on est le pays parfait de Dieu, ça, c'est nous aussi. En même temps, 20% de la population américaine sont très bien éduqués, progressistes. Notre culture est extraordinaire. Le jazz, la littérature américaine, le cinéma américain, surtout le cinéma indépendant, franchement, en fait, et aussi l'espace américain que j'adore. Il y a des choses que, magnifiques chez nous. Et de l'autre côté, en fait, j'ai peur.
On va aller chercher un peu de beauté quand même, tous les deux, ce matin, avec un titre justement de jazz que vous avez choisi, Douglas Kennedy. C'est un titre qui s'appelle « Cheek to Cheek » sur l'album culte de 1956, « Ella and Louis ». Vous êtes sur France Inter, avec Douglas Kennedy donc. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, beat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il a quelque chose en lui d'étrangement dansant, quelque part entre le prof de danse de salon, le chef d'orchestre, ou même, qui sait, l'ancien pom-pom boy. Le regard clair et acéré derrière ses lunettes, le sourire entendu, le cheveu dense, la main mélomane avec ses tennis ce matin, qui font de lui, me confie-t-il, un hipster new-yorkais, le romancier américain Douglas Kennedy, invité de Boomerang pour Les hommes ont peur de la lumière. Roman noir, on l'a compris, fresque sociale d'une Amérique fracturée qui semble constamment habitée par un sentiment de peur. Et vous écrivez à un moment clé du livre, je dis pas lequel, « Je suis comme tout le monde, j'ai peur ». D'où vient-elle cette
oui,
peur?
Ça c'est la dernière phrase du roman.
Douglas.
Non, mais voilà, on n'a pas gâché en fait la fin.
Mais oui. D'où vient cette peur?
Oh là, pour moi, la peur est le fait que, honnêtement, de plus en plus, la démocratie américaine est complètement fracturée. Et de temps en temps, je pense aussi, même si le décor de roman est hyper américain, le sujet est complètement universel. La vérité, dans tous les pays maintenant, il y a deux camps opposés tout le temps. Le fait qu'il y a deux versions du même pays opposés, en fait. Et aussi, l'ombre des choses totalitaires est partout. Ce n'est pas simplement Trump et le Parti républicain. C'est Bolsonaro, c'est Erdogan, c'est Orban. En fait, son quatrième mandat récemment en Hongrie. Et honnêtement, le grand sujet aujourd'hui pour moi, c'est le manque de l'éducation. Ça, c'est pour moi essentiel. Et le fait qu'on a diminué l'éducation partout, moins ici en France, mais surtout aux États-Unis, en fait. Franchement, le gouvernement fédéral a diminué, en fait, la subvention de l'éducation. Et on paye un prix pour ça. Franchement, parce que l'ignorance est partout. Quand je vois quelqu'un avec un journal aussi, je suis content. De plus en plus, en fait, on est dans un monde sans papier. Et la vérité, quand on lit en voyage...
Ça veut dire que votre métier d'écrivain, la raison pour laquelle vous écrivez autant, parce que vous écrivez beaucoup, c'est aussi dans cette perspective, c'est aussi pour ça.
Oh oui, tout à fait. Parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de questions, jamais une réponse. J'ai écrit un essai qui s'appelle Toutes les grandes questions sans réponse.
Ah oui.
Parce que je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas prêtre ou politicien. En fait, je pose beaucoup de questions dans mon écriture. Et pour moi, ça c'est passionnant. Mais aussi, intégrer ça avec un style, comme j'ai dit, très facile. Et j'aime le fait. Et je pense que c'est possible de créer un roman, en fait, franchement, très accessible, mais aussi profonde en même temps.
Choisir l'écriture, pour vous, dans quelle mesure ça a été une façon de fuir le conformisme de votre milieu, Douglas Kennedy, de vos parents?
Oui, en fait, j'ai grandi dans un appart de 60 mètres carrés. Mon père était un homme d'affaires, pas très content dans sa vie. Ma mère était une femme éduquée qui est devenue une femme au foyer quand son premier fils, moi, est arrivé. C'était un mariage pas terrible, mais pas à cause, mais grâce à ça, je suis devenu très indépendant, très jeune, en fait. Je me souviens très très bien, quand j'avais 8 ans, au milieu d'une dispute entre mes parents, j'ai demandé à mon père, est-ce que c'est possible, je peux aller à la bibliothèque, qui était 4 rues plus nord, en fait. Et ça, c'était le début de ma vie comme voyageur.
Qu'est-ce que ça voulait dire, l'échec, le succès, quand vous étiez petit, Douglas?
La vérité, maintenant, en fait, Les hommes ont peur de la lumière, c'est mon 25e livre,
oui,
publié. Et j'ai des doutes tout le temps quand j'ai écrit. En fait, je pense que si on n'a pas des doutes comme artiste, on n'est pas artiste. La vérité, en fait, le doute, c'est le voisin à côté tout le temps qui frappe au mur au milieu de nuit, en fait. Et pour moi, en fait, si je commence de penser, ok, en fait, 25 livres, 16 millions vendus, des choses comme ça, le moment quand quelqu'un a pensé... Je suis le grand écrivain. Ça, c'est le début d'une grande chute.
Oui.
Je me souviens très très bien un journaliste que j'ai rencontré ici en France, hyper arrogant, mais l'arrogance cache le doute tout le temps. Et ce mec a écrit un roman, un pavé, en fait, une grande fresque du XXe siècle que j'ai essayé de lire. C'était absolument brillant. Mais le mec m'a dit, j'ai passé 7 ans d'écrire ça. Et c'était l'époque de La Femme du Cinquième, un de mes romans, qui était filmé avec Ethan Hawke et Kristen Scott Thomas. Vous avez besoin de combien d'années pour ça? Et j'ai répondu 4 mois.
Alors,
et il me dit, mais ça, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Et j'ai répondu, Crime et Châtiment, en fait, 60 jours. Dostoïevski a des dettes. Et voilà, en fait, mon point est l'écriture pour moi, c'est quelque chose de très quotidien. Je n'ai jamais pensé, et maintenant, en fait, je vais écrire le grand roman. C'est simplement le prochain.
Mais réussir sa vie, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une question que vous posez dans ce livre.
Honnêtement, je pense, mon Dieu, j'ai une vie extraordinaire. Je vis une moitié du temps en France, je vis à Berlin aussi. Ich spreche Deutsch, das ist mein dritte Sprache. Mais j'ai un appart à Berlin depuis 16 ans. Aussi, j'ai un appart à Londres, mon fils est là-bas maintenant, j'ai une fille à New York, j'ai une maison dans le Maine et je voyage. En fait, 79 pays maintenant. Le truc pour moi, j'ai deux constantes dans ma vie, mes deux enfants, avec lesquels je suis hyper proche, et aussi mon écriture. Et pour moi, en fait, d'être écrivain, je peux aller au cinéma l'après-midi.
Merci infiniment, Douglas Kennedy, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Les Hommes ont peur de la lumière, votre nouveau roman, vient de paraître aux éditions Belfond, dans une belle traduction de Chloé Royer, et vous êtes actuellement en tournée de dédicaces dans toute la France. Tout de suite, c'est l'heure des médias, le retour de Sonia De Villers pour son Instant M. C'est juste après ça.
As I get a little older, I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a lesson. All my people.
I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, a chip you for designer. Belt buckles and clout overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, missed at the inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky, desensitized. I vandalize pain, covered up and camouflage. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture, 23-hour lockdown. Then somebody called, said your little nephew was shot down. The culture involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house, get out and get his brains blown out, looking to buy some weed, car washes played out, new GoFundMe accounts will proceed, a brand new victim will shatter those dreams, the culture.
To let y'all know what a nigga look like in a bulletproof rover. In my mama's sofa was a doodle popper, hair trigger, walk up closer. Ain't no photoshopping, friends bipolar. Grab you by your pockets, no option if you froze up. I always play the offense. Niggas going to work and selling work, late for work. Working late, praying for work, but he on paperwork. That's the culture, point the finger, promote ya. Remote location, witness protection, they gon' hold ya. The streets got me fucked up, y'all can miss me. I wanna represent for us. New revolution was up and moving. I'm in Argentina wiping my tears, full of confusion. Water in between us, another peer.